Bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine, édition déjà du 4 décembre 2017. Mon nom est Claude Blas, j'espère que vous allez bien encore une fois ce matin. Et on retrouve à l'entour de la table, ben oui, deux collaborateurs, entre autres M. Roger Roy. Comment allez-vous?
Bonjour, nous allons bien.
Ouais, oui, tant oui. mieux. Les deux? Oui, les deux.
Oui. Oui, toute la gang. Mais oui, mais je pense qu'il fait très beau ce matin.
Ah, effectivement. C'est doux, en plus, pour le temps de l'année.
Oui. Mm-hmm.
Alors, de quoi allez-vous nous parler?
Moi, je vais vous parler de noms d'oiseaux, des rues avec des noms d'oiseaux.
Ah?
On ne parle pas des sacs, là, ou des gens qui ont des, un langage un peu particulier. On dit, on vous a affublé de noms d'oiseaux. Là. On parle des rues qui ont des noms
des
d'oiseaux.
Okay.
C'est bien
mm-hmm.
curieux. Hein.
D'accord. C'est bien.
C'est
bien France, expliqué, quand
c'est
même.
C'est Marie-France Bazot qui oui. nous en parle dans sa chronique.
D'accord. Et comme deuxième sujet?
Comme deuxième sujet, je vous parle des cégeps.
Des cégeps?
Ouais.
Ah, enfin. Okay.
Ils sont fringants, les cégeps.
Et on arrive en fin de session pour eux, hein, c'est ça?
Oui,
oui, ouais, tout à fait, on arrive en fin de session. Monsieur Serge Hamelin, comment allez-vous?
Ah, de mieux en mieux, merci. Et vous-même?
Et très, très bien ce matin.
Ah, c'est ouais. merveilleux.
Il fait doux.
Ah, hein? Il fait doux, c'est beau, dit, ouais. c'est bon. C'est on se croirait presque au printemps.
Oui, c'est vrai.
Profitons-en, alors... demain, il va faire 9 degrés, encore plus chaud.
Ah, quand même.
Mais de la pluie.
OK. Et en attendant, vous allez nous parler de...
Des mots d'hiver.
Des mots d'hiver.
Des mots M-A-U-X.
Ah, OK.
Et je vais vous parler ensuite, pour se remonter des mots divers, je vais vous parler du gin.
Alors, à l'approche des fêtes, on va savoir
oui,
si on a
et
du
je
bon
vais
gin
vous parler des bons gins québécois. Ah,
d'accord. Et de mon côté, ben, je vais vous parler de la productivité à ses limites. C'est un article que mon ami Roger a bien voulu me refiler sur la santé, donc de l'actualité. Et je vous parlerai aussi de mastication, imaginez. Qu'est-ce que ça peut faire sur la santé, la mastication? Bon, on verra ça un peu plus tard. On vous revient dans quelques instants. Alors, de retour avec un premier sujet, un premier article, en fait, avec
oui,
Roger.
Oui, je suis content de commencer parce que c'était tout à fait obtus ce que j'ai dit quand j'ai annoncé mon sujet. Personne n'a rien compris, les noms d'oiseaux et tout ça. Alors, on va clarifier tout de suite.
D'accord.
Dans sa nouvelle mouture, vous savez, l'actualité a ouvert ses pages à des chroniqueurs réguliers comme Alain de Vadeboncoeur, dont
oui.
Claude vient de nous parler. Mm-hmm. Lui, il parle de santé, Chantal Hébert nous parle de politique et... Marie-France Bazot, elle, nous parle de société. Alors, à chaque édition, mm-hmm. elle a un article sur cette question-là. Et le titre de son texte, c'est ce mois-ci, au mois de décembre, de l'actualité, « Des rues avec des noms d'oiseaux mm-hmm. ». Notre époque est marquée par un nouveau puritanisme qui s'infiltre partout et qui emprunte parfois les sentiers les plus inattendus. Rappelons-nous cet été l'épisode du déboulonnage de la statue du général sudiste Robert E. Lee, qui a mené aux événements de Charlottesville et à une mort. En amont et en aval, plusieurs monuments symboles des Confédérés ont été jetés par terre. Une polémique semblable avait aussi entouré le nom.
Ah, ça va bien. Non, ça va très bien.
Une petite pause, oui, moi, c'est le chat, là.
Ça va.
Une polémique semblable avait aussi entouré le nom et les statues d'Horatio Nelson, jadis héros national en Angleterre, maintenant synonyme de suprématie blanche et d'esclavage. À New York, le maire Bill de Blasio a voulu éliminer le Christophe Colomb de Columbus Circle, jugé offensant pour les Amérindiens. Mm-hmm. À Montréal, au la baie de la rue Sainte-Catherine, on a subito presto retiré une plaque à la mémoire de Jefferson Davis, ex-président des États-Unis confédérés. Des États fédérés. J'aurais pas dû dire des États-Unis. Ex-président des États confédérés. Au plus fort de la polémique, on a annulé la projection dans un festival de Memphis, d'autant en emporte le vent. Chef-d'œuvre du cinéma maintenant honni pour un esclavagisme patent. On a voulu débaptiser les écoles portant le nom de Johnny McDonald, un salaud du mauvais côté de l'histoire, comme on a rayé avec fulgurance Claude Jutras un an plus tôt. Mais quelle est cette urgence maladive de lessiver nos mémoires? L'histoire, cette guidoune, est-elle salissante à ce point? Il se trouve que régulièrement, je relis pour l'enchantement un chapitre des Remarquables oubliés, l'œuvre que l'anthropologue Serge Bouchard et sa co-auteure Marie-Christine Lévesque ont consacrée à des explorateurs canadiens-français, des coureurs des bois, des femmes fortes, des autochtones polyglottes qui ont sillonné l'Amérique et dont l'histoire a oublié de s'embarrasser. Je préfère cette méthode douce et pédagogique, ramener à la vie des personnages et des pans de notre histoire plutôt que de déboulonner rageusement, enrichir plutôt que de purger. Car à quoi sert l'histoire, fondamentalement? À tisser un fil, coudre une mythologie commune qui intègre et donne à partager. Si ce fil n'existe plus, on ne peut plus remettre la trame en doute ni l'enrichir de voix et de récits discordants. L'histoire sert aussi à ne pas répéter les erreurs du passé. Ainsi, l'esclavage, qui nous apparaît aujourd'hui comme une aberration, mais qui était pratiqué dans les États-Unis du 19e siècle. À juger nos ancêtres avec nos yeux contemporains, nous sommes dans le monde, dans la morale plutôt, pas dans la réparation. L'histoire et ses marqueurs servent de repères pour voir plus loin. Autre chose. L'histoire n'est jamais neutre. Elle est écrite par les vainqueurs qui ont la fâcheuse tendance à se répandre sur le territoire en statues lénifiantes. L'espace public de toutes les nations est occupé par des monuments à la gloire de personnages qui ont du sang sur les pattes. Parfois, ces gagnants sont aussi paranoïaques et autoritaires et se mettent à effacer des figures historiques. De Staline à Daesh jusqu'au bien-pensant actuel, c'est le même vertueux combat. Éradiquons les mémoires conflictuelles. Qui va décider ce qu'est la vraie histoire? En quel nom? Selon quels critères? Les considérations à court terme sont mauvaises conseillères. Certains activistes sont les nouveaux censeurs des démocraties occidentales. Leur hyper-morale pétrie de rectitude politique forme un cocktail redoutable. Ajoutons le fait que notre jugement est dicté plus par l'émotivité que par la connaissance historique. Entre la culture de l'offense et le politiquement correct, nos rues seront bientôt abandonnés aux reposants noms d'oiseaux du Canada et d'arbres de la forêt tempérée, question de ne pas choquer. Les symboles, statues, films, œuvres, toponymes sont là comme rappel, ils sont datés, ce sont des produits de leur époque. Des appels à faire mieux, à regarder plus loin, chaque période et surtout celle des grands changements, de révolutions, se réapproprient ces marqueurs. C'est brutal mais compréhensible. Qu'on souhaite à ce point faire table rase du passé en période de paix est nouveau. Le danger est qu'en cette époque moralisante qui est la nôtre, on veuille abolir des pans de l'histoire. Certes, elle n'est pas belle, mais c'est celle qui nous a construits. Résistons à cette folie de radicalisme et de rectitude. Proposons des figures différentes. Enrichissons la mémoire collective. Enseignons plus, apprenons mieux les versions de l'histoire. Explorons ces interstices méconnus. Racontons les épopées des laissés-pour-compte, des perdants, dressons de nouvelles statues pour discuter autour, lisons les Remarquables oubliés. Elle ne l'a pas oublié, c'est l'œuvre de Serge Bouchard et de Marie-Christine Lévesque. Bien plus que l'éradication revancharde, que le militantisme amnésique, ça forme des citoyens curieux, des humanistes. Alors, des rues avec des noms d'oiseaux, c'est à ça que je voulais en venir. Ouais, c'est Marie-France Brazeau.
Ouais.
Brazeau plutôt, OK.
Oui, il faut dire que l'histoire soit négative ou positive, ça reste l'histoire.
Voilà. Hein? C'est bien dit, ça.
C'est bien dit? Ah, quand même. On revient dans quelques instants. Alors, merci Roger. À mon tour de vous lire un article qui a été retiré de l'actualité, en fait. C'est un papier de Alain Vadeboncœur qui titre « La productivité à ses limites ». On verra le 1er janvier prochain si le ministre Gaétan Barrette a gagné un de ses nombreux paris. 85% des Québécois auront peut-être alors leur médecin de famille. Mais qu'on atteigne ce seuil ou pas, je me demande si ce paramètre de productivité n'occupe pas trop de place dans les réflexions. Il est vrai que notre ministre apprécie depuis longtemps ce concept. Comme président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, il l'avait d'ailleurs placé au cœur des négociations pour le rattrapage salarial avec le Rest of Canada, qu'on dit communément le ROC, la répartition de hausse entre les diverses spécialités étant partiellement liée à une amélioration de leur productivité. Comme ministre, Il table donc sur la proposition, ou plutôt l'injonction suivante. Les médecins de famille doivent augmenter la cadence, parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment. C'est à l'image d'Astérix ou de Ben-Hur quand les coups donnés sur le tambour les poussaient à ramer plus vite sur leur galère. Les détails d'accès aux médecins, les délais d'accès, pardon, aux médecins de famille représentent bien un des problèmes reconnus par notre système de santé, puisque nous sommes les champions de l'attente, loin derrière le ROC ou d'autres pays développés. Mais s'ils ne travaillent pas assez en première ligne, c'est aussi parce que les médecins se consacrent plus qu'ailleurs à la pratique hospitalière. Une autre partie du plan du ministre visant d'ailleurs à les sortir partiellement des hôpitaux. C'est aussi par les pouvoirs de l'accès adapté qu'on cherche à améliorer les choses. Il s'agit de réserver la majorité des rendez-vous pour des visites non planifiées, histoire de voir plus rapidement le patient quand il est vraiment malade, une grande nouveauté en médecine. Mais la productivité est-elle la mère de toutes les vertus médicales? Lorsque plus de Québécois auront des médecins de famille, que ces derniers travailleront davantage et que les pratiques seront tournées vers l'accès adapté, le ministre aura-t-il vraiment gagné son pari? J'en doute. La carrière de radiologiste du ministre semble avoir atteint sa vision de la médecine. En radiologie, on ne maîtrise pas la demande qui vient des autres médecins. Il s'agit alors surtout d'améliorer l'offre en augmentant la productivité pour effectuer toujours plus de radiographies, d'examens de tomodensitrométrie, qu'on appelle les scans, d'échographie, de résonance magnétique ou d'intervention. Mais comme un scan prend aujourd'hui quelques minutes à réaliser contre une heure, 25 ans plus tôt, la productivité de ses collègues s'est aisément améliorée, ce qui n'a pas nui aux revenus des radiologistes. D'ailleurs, cela me rappelle une phrase lancée par un psychiatre à son ami radiologiste lors d'un débat. Il lui dit « Gaétan, t'as bien beau être plus productif avec tes scans, moi, mes patients, ils parlent encore à la même vitesse qu'avant. » La réalité est plus complexe en médecine familiale. D'abord, parce qu'une hausse de la productivité ne contribue pas toujours à l'amélioration de la santé. Effectuer plus de bilans de santé annuels ne rend pas nécessairement les gens moins malades, comme de vastes recherches l'ont montré. Réaliser automatiquement plus de tests médicaux, comme des prises de sang annuelles, n'a pas non plus d'effet notable sur la santé, surtout si la personne est déjà en bonne santé. Ensuite, parce qu'il est plus difficile de juger des retombées, des gestes faits en première ligne, lorsqu'il s'agit de mesurer le maintien en santé d'un groupe de patients, la baisse des recours inutiles aux urgences, la réduction du taux d'hospitalisation des malades chroniques, le maintien de l'autonomie des personnes âgées, etc. À cette fin, compter les visites est loin d'être assez. Tant mieux si le ministre gagne en janvier prochain son pari, ou plutôt, si les médecins répondent à sa commande pressante. Mais si une productivité adéquate est nécessaire pour permettre une meilleure accessibilité, il ne s'agit ni d'une panacée, ni d'une condition suffisante pour améliorer la santé des gens. Une fois le fameux 85% atteint, un chiffre arbitraire, il faudra tout de même s'occuper, enfin, de ces questions tout aussi fondamentales qui changeront vraiment la santé des gens pour le mieux, soit le travail en équipe, la coordination des soins et une meilleure collaboration entre les professions. Il s'agit là des véritables déterminants de la qualité des soins en première ligne, et sans aucun doute, d'enjeux bien plus importants que le nombre de patients vus dans une journée. Pourtant, on en a bien peu parlé ces dernières années. Alors parlons-en. Et il termine sa chronique en disant « Lorsque plus de Québécois auront des médecins de famille, que ces derniers travailleront davantage et que les pratiques seront tournées vers l'accès adapté, le ministre aura-t-il vraiment gagné son pari? » Eh bien, on le verra dans quelques semaines ou même peut-être à la fin de son mandat. Alors, on vous revient dans quelques instants.
chante comme un oiseau triste. Et je lui dans un écho mes prières. Quoi que je dis, surtout quoi que je fasse, ce que je ferai, je l'ai déjà fait. Si je ne résiste pas, c'est que la ville est chaque fois plus belle, plus belle, plus belle, plus belle. Si je ne résiste pas, c'est que la cible est chaque fois plus belle, plus belle, plus belle.
D'entendre Nosferatu par Peter Peter.
Alors, merci après avoir parlé du ministre Barrette hein, avec ses souhaits. Serge, vous avez un sujet pour nous, naturellement.
Oh oui, un sujet d'actualité, hein, uh-huh. Tout à fait. C'est l'hiver et le rhume.
Ah!
Oui, oui, oui. Alors, dans la revue Protégez-vous, Catherine Crépeau a écrit un article sur les maux d'hiver. Mmh. M-A-U-X. Mmh. Les sirops, les pastilles, les gouttes et autres produits en vente libre sont d'une utilité discutable contre le rhume. Voici des conseils pour soulager vos symptômes efficacement. Le nez qui coule, les yeux larmoyants, la gorge irritée, la toux. Il est rare de traverser l'hiver sans attraper un rhume. Un adulte moyen en souffre de 3 à 4 fois par an, alors que les enfants peuvent l'avoir de 7 à 10 fois. Mon Dieu, je savais pas ça, moi. Et lorsqu'il frappe, le premier réflexe est souvent de se tourner vers les médicaments contre le rhume qu'on trouve en vente libre. Un geste qui n'est pas sans risque et qui s'avère souvent inutile.
Ah.
Oui. Même si elles sont vendues sans ordonnance, les solutions anti-rhume restent des produits de santé qui peuvent provoquer des effets secondaires comme de la somnolence, des réactions allergiques ou des troubles digestifs. Elles peuvent même s'avérer dangereuses pour les personnes cardiaques et les enfants de moins de 6 ans chez qui elles sont déconseillées. En 2016, le Centre antipoison du Québec a enregistré 562 cas d'intoxication liés aux antitussifs, aux expectorants, ou aux produits anti-mucosités. De ce nombre, 342 étaient attribuables au dextrométhorphane, c'est-à-dire DM. OK? Alors, si vous achetez un médicament, regardez si c'est marqué DM dessus. Un ingrédient courant dans les sirops contre la toux. Autre bémol, leur efficacité est limitée car aucun médicament ne guérit le rhume. Ah! Ah!
Le temps.
Pharmaprix.
Le temps seulement.
Family Prix.
Ah! Ah! Oups! Publicité.
Les produits vendus en pharmacie ne font que diminuer la sévérité des symptômes qui vous empêchent de dormir, vous rendent d'une humeur massacrante et sapent l'énergie dont vous avez besoin pour vous remettre. Par ailleurs, comme le rhume est causé par des virus, inutile de prendre des antibiotiques car ils ne sont d'aucune utilité contre les infections virales. Leur spécialité, ce sont les bactéries. Le vaccin contre la grippe peut offrir une certaine protection. Toutefois, comme il protège seulement contre quelques virus grippaux et qu'il existe plus de 200 virus du rhume, il est peu probable que le vaccin contienne la souche qui vous affecte. Alors, c'est clair, ça, là? T'sais, on se demande toujours... Eh bien, voilà. Le seul traitement valable pour combattre votre rhume consiste à le laisser suivre son cours.
Voilà. Le temps.
En vous assurant de boire beaucoup de liquide pour contrer la déshydratation et fluidifier les sécrétions. Reposez-vous également afin de faciliter le processus de guérison qui dure de 7 à 10 jours. En attendant, pour soulager vos symptômes, les produits anti-rhume peuvent être une option, à condition de bien les choisir et de ne pas en abuser. Et voici des conseils que je peux continuer à vous donner durant tout l'hiver, si vous voulez. J'en ai. Par exemple, pour combattre la toux, décongestionner un nez bouché, faire baisser la fièvre, soulager le mal de gorge. En voulez-vous, en v'là. Comment échapper au rhume? Soulager vos enfants sans médicaments et quand consulter un médecin? Alors, c'est ce qui est écrit dans la revue Protégez-vous. Alors, je peux vous en mentionner
si vous nous donnez une ou deux exemples.
Oui, deux exemples. Allez-y. Combattre la toux. Donc, comme la toux permet à votre organisme d'expulser le mucus qui encombre vos voies respiratoires, il n'est pas toujours avantageux de l'inhiber. Si vous avez une toux grasse, boire beaucoup de liquide comme de l'eau, de la tisane ou du bouillon s'avère le meilleur remède pour favoriser l'expectoration. Les antitussifs contiennent généralement du DM, comme je vous le mentionnais tantôt, qui agit sur le cerveau pour calmer le réflexe de la toux. Dans plusieurs produits, le DM est associé à la pseudoéphédrine ou à la guaifénécine, un expectorant qui aide les mucosités à se détacher. Des propriétés qui sont incompatibles et qui ne devraient pas être jumelées, explique Daniel Kirouac. L'antitussif inhibe la toux, alors que si l'on veut que l'expectorant agisse, il doit justement y avoir des quintes de toux pour que les sécrétions puissent se faire, puissent se détacher des bronches. Ce sont deux actions contraires. En fait, les expectorants ne sont pas vraiment recommandés car leur efficacité n'a pas été démontrée. Et d'autres produits combinent les trois ingrédients en plus de contenir de l'acétaminophène, aspirine, appelée paracétamol ailleurs dans le monde pour lutter contre la douleur ou la fièvre. Alors, voyez-vous, docteur, c'est simple. Pour combattre la toux, il faut tousser.
Oui, effectivement, c'est ça.
Comme dirait l'autre, il faut que ça sorte.
Il faut que ça sorte, puis prendre le temps du temps.
Puis tantôt, je vais revenir pour décongestionner un nez bouché.
Oui, c'est une bonne idée. On vous revient dans quelques instants avec quelques brèves. Alors, saviez-vous, messieurs, que le café, moins il est torréfié, plus il contient d'antioxydants?
Non.
Ah oui, c'est un petit article que j'ai retrouvé dans la sélection du Reader's Digest. C'est la caféine qui nous rend accro, mais le café contient aussi une molécule bénéfique, l'acide chlorogénique. Ces deux substances antioxydantes protègent nos cellules des ravages des radicaux libres et des chercheurs coréens ont mesuré leur teneur dans des grains plus ou moins torréfiés. Résultat, celle de la caféine ne varie pas beaucoup, mais celle de l'acide chlorogénique est d'autant plus élevée que la torréfaction est légère. Mmh. Ah oui, quand même.
Bon, en Chine, on se modernise, hein? On donne maintenant à l'université une maîtrise ex-selfie. Mmh. L'art de l'égoportrait s'enseigne désormais à l'université dans les écoles de commerce, puisque nombre d'internautes gagnent leur vie en se mettant en vedette sur les réseaux sociaux. Une bonne mise en marché est importante. Les étudiantes, la plupart sont des filles, apprennent donc à se maquiller, à danser, à marcher comme un mannequin, à sourire à la caméra, à manier la perche à selfie et à bien connaître les produits de luxe.
Ah, quand même.
On a un témoin idoine, je pense qu'il a remarqué que ça progresse considérablement en Chine.
Mm-hmm.
Une sorte d'aspect, hein, Serge.
Oui.
Serge, on peut nous en parler, non? Et Serge, vous avez une petite nouvelle brève?
Eh bien, vraiment utile, les filtres, les bienfaits des carafes qui servent à filtrer l'eau, comme les populaires modèles vendus sous la marque Brita, ont été remis en doute par l'Agence nationale de sécurité sanitaire française. Si la plupart des modèles testés respectent les normes, notamment ce qui a trait aux concentrations en chlore, en plomb et en cuivre, leurs effets sur la réduction du calcaire et leur capacité à filtrer des nitrates sont très variables, rapporte l'agence.
Bah.
Voyez-vous, celle-ci conclut donc que l'efficacité de ces pichets est discutable et indique que les filtres peuvent même conduire à une altération de la qualité microbiologique de l'eau en facilitant le transfert de contaminants.
Okay.
C'est bon?
Merci. Alors, pour la deuxième demi-heure, on revient avec plein de sourires aussi.
Oui.
Thank you.
Catherine Ringer qui nous chantait « Comment va ?».
Alors, de retour à l'émission Les Voix de Service Magazine. Et on poursuit avec un article lu par, en fait, Roger, oui.
Oui, c'est un texte de Isabelle Grégoire qui nous dit pourquoi les cégeps sont plus fringants que jamais. Mm-hmm. C'est un anniversaire important pour les cégeps cette année.
Ouais.
Organiser un match de basketball entre moines tibétains et étudiants québécois, c'est l'un des travaux pratiques réalisés par Étienne Raymond durant une session en 2016 au cégep Marie-Victorin. Session que l'étudiant montréalais a passée à Dharamsala, en Inde, avec le reste du groupe. Pour le cours d'éducation physique, on devait trouver une activité qui avait un lien avec notre communauté d'accueil, des réfugiés tibétains, explique le cégepien de 20 ans. C'était magique de voir jouer ensemble deux groupes aussi différents. C'est la perspective d'étudier à l'autre bout de la planète qui a poussé ce grand mince aux yeux bleus à s'inscrire en sciences humaines, profil monde, à Marie-Victorin. L'immersion culturelle de 3 mois et demi que les 15 étudiants ont vécu en Inde n'a pas ralenti leur formation. Ils ont suivi 6 cours en philo, en sociaux, en géo, en autodidacte à l'aide d'un guide d'apprentissage. Session à l'étranger, campus délocalisé, alternance travail-études. 50 ans après leur naissance, en 1967, les cégeps continuent de se réinventer pour inciter les jeunes à entreprendre des études post-secondaires et à les terminer. À la rentrée 2017, ils étaient 175 270 à franchir les portes des cégeps, un chiffre stable malgré la baisse démographique. Certains collèges excentrés parviennent même à augmenter leurs admissions en recrutant des étudiants internationaux. Au cégep de Saint-Félicien, par exemple, ceux-ci représentent 20 % de l'effectif, soit 200 étudiants venus de l'étranger. L'établissement a ainsi les moyens de sauvegarder des programmes offrant de bonnes possibilités d'emploi dans la région, comme les techniques de comptabilité et de gestion. L'accessibilité financière et la proximité sont des enjeux cruciaux pour attirer les jeunes. Outre les 48 cégeps, 35 centres d'études collégiales et CEC, ou campus délocalisés, ont été créés afin de couvrir au mieux le territoire. Dernier en date, le CEC du Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent, inauguré à la rentrée 2017 par les cégeps de Rivière-du-Loup et de l'Apocatière. La proximité d'une maison d'enseignement est un gage de réussite pour notre première population, les 17-18 ans, souligne Bernard Tremblay, qui est PDG de la Fédération des cégeps. Même si nous offrons de la formation à distance à grande échelle, l'idée de suivre un cours dans son sous-sol n'encourage guère un jeune à commencer le cégep. Par ailleurs, pour retenir au cégep les jeunes impatients de gagner leur vie, l'alternance travail-études est efficace. Le cégep Limoilou propose cette formule dans une dizaine de programmes, électronique industrielle, mécanique du bâtiment, etc., qui comprennent 2 ou 3 stages rémunérés, 8 semaines minimum chacun. Nouveauté à la rentrée 2017, en plus des stages, 25 % des heures de formation se déroulent en entreprise où étudiants et profs se déplacent. Plutôt que d'être expliqué en classe, un concept peut ainsi être expérimenté de façon active et concrète, note Daniel Lantagne, responsable des stages. Ce type de pédagogie est aussi proposé au cégep de Thetford Mines, où les étudiants en technique de plasturgie, la transformation des plastiques, suivent la moitié de leur formation dans les usines voisines. Près du tiers des techniciens diplômés enchaînent avec des études universitaires. Une proportion en hausse, notamment en raison de l'augmentation du nombre de passerelles DEC-BAC qui permettent de reconnaître jusqu'à 1 année universitaire. Des passerelles existent aussi entre le diplôme d'études professionnelles, le DEP, et certains DEC techniques, soit infirmiers, comptabilité, technologie et électronique. Et pour conclure, le journaliste a posé des questions au PDG de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, elle a posé la question suivante. En quoi ce système propre au Québec que certains aimeraient abolir est-il toujours pertinent? Réponse du PDG. D'abord, les cégeps sont l'antidote à la marchandisation de l'éducation. C'est dans leur ADN. Tous les étudiants au pré-universitaire, comme dans les techniques, suivent la même formation générale. Peu de systèmes dans le monde offrent un tel cursus. De plus, je récupère le slogan d'une compagnie d'assurance. On a un système qui pardonne. Dans beaucoup de systèmes d'éducation, un mauvais choix d'orientation oblige la personne à changer d'établissement, à reprendre des cours, c'est beaucoup plus facile de changer de programme dans un établissement où tout est offert. Grâce à une mixité technique, à la mixité technique et préuniversitaire, il y a des passerelles, les cours communs sont crédités, il y a donc très peu de perte de temps au cégep. Autre effet sur les 50 ans, quand on regarde ce qui se passait en 1967 par rapport à 2007, on voit qu'en 1967, il y avait 12 cégeps, en 2017, il y en a 48. Il y avait 14 000 étudiants en 1967, 175 000 aujourd'hui. En 1967, 25 % des étudiants étaient des femmes. Aujourd'hui, c'est 57,5 %. Les hommes en 1967 formaient 75 % des effectifs. Maintenant, c'est 42 %. Alors, le bilan des cégeps 50 ans après leur création, d'après le directeur, le PDG, quand on compare le niveau d'éducation avant et après la Révolution tranquille, on constate que le Québec a fait un bond gigantesque. Alors que nous étions l'un des peuples les moins scolarisés d'Occident, nous sommes aujourd'hui un chef de file. Le Québec occupe la première place au Canada pour l'obtention d'un diplôme post-universitaire chez les 18-24 ans. Alors, c'est comme un succès.
C'est quand même intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Et il y a de plus en plus d'enfants, en fait, au primaire et qui vont monter au secondaire.
Oui,
donc, on va avoir besoin de plus en plus de...
Oui, ce qui est intéressant, c'est que la fréquentation ne diminue pas. Il y a autant
d'étudiants. Non, tout à fait. Et elle va continuer à augmenter, j'ai l'impression.
C'est Isabelle Grégoire qui a écrit ce texte dans l'actualité du mois de novembre.
Merci beaucoup, Roger. On vous revient. De retour, moi, j'ai trouvé un texte sur le blog du site Passeport Santé Internet. C'est un texte de Hélène Baribeau qui est nutritionniste et qui nous demande à quoi sert la mastication, vous pensez, côté santé? Ben, je vais vous le dire. Souvent, les gestes les plus simples et les plus importants sont les plus négligés. Et c'est le cas de la mastication, une action essentielle, dit-elle, mais bâclée la plupart du temps. Dans la société d'aujourd'hui, où tout doit aller rapidement, nous fait consommer des mets mous ou broyés, genre smoothies, shakes, jus protéinés, entre autres. Et il en est de même pour les bars repas, les hamburgers, hein, les fameux hamburgers, les frites, les boissons sucrées, les muffins, etc. Et elle dit que plus c'est mou, plus c'est pratique et rapide, c'est vrai. Mais moins on mastique tout en mangeant sans se rendre compte des calories superflues ingérées. Donc, à quoi sert la mastication? Ben, elle permet tout d'abord de couper, de déchirer et de broyer les aliments, naturellement. Sans ces actions préalables, la salive ne peut réaliser sa tâche prioritaire, soit la dégradation initiale des aliments, notamment de l'amidon, qui va permettre une meilleure absorption des nutriments dans l'estomac et l'intestin. À titre d'exemple, le pain bien mastiqué subit une réelle prédigestion dans la bouche. En effet, un petit morceau de pain mastiqué longuement libérera un goût sucré. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience. Signe de la prédigestion de son amidon. L'avantage maintenant de la mastication pour la gestion du poids. Hein, ça peut-être ça intéresse quelques-uns de nous. Une étude publiée dans la revue Obésité a démontré qu'une plus longue mastication, donc une mastication qui dure plus d'une minute, diminue la prise de calories, et ce, indépendamment de la quantité de nourriture présente dans l'estomac. La mastication est donc très importante dans la gestion du poids, puisqu'elle permet une meilleure reconnaissance des signaux de faim et de satiété. Elle dit qu'en général, les personnes qui mangent plus lentement ont un indice de masse corporelle qui se situe dans les valeurs santé. De plus, il a été démontré que les hommes mangent plus rapidement que les femmes. C'est vrai ça?
Je ne sais pas.
Okay. Ce qui pourrait expliquer en partie la prévalence de l'obésité plus élevée chez eux par rapport aux femmes. Aussi, prendre le temps de manger et de déguster chaque bouchée augmente la libération des arômes et des saveurs, rendant du même coup le repas plus agréable et plus satisfaisant, diminuant ainsi l'envie de manger plus que nécessaire. Le mécanisme par lequel nous ressentons la satiété après le début du repas n'est pas instantané. Il demande environ une vingtaine de minutes pour se manifester. Et plus les aliments sont mastiqués avant d'être absorbés par l'estomac, plus le cerveau comprend rapidement que le corps recevra l'énergie dont il a besoin. En effet, il a été démontré que les personnes mastiquant plus sont rassasiées plus rapidement, baissant ainsi leur consommation de calories inutiles. Et dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi les aliments liquides comme les jus et les boissons gazeuses peuvent nous amener à surconsommer et éventuellement prendre du poids. Et l'avantage de la mastication pour soulager les troubles digestifs, de temps en temps, on a des brûlements d'estomac, ben voilà. Une plus longue mastication aide à diminuer les troubles digestifs tels que les reflux gastriques, les ballonnements et les maux de ventre. En effet, en mastiquant plus, on facilite le travail des enzymes digestives pour mieux briser les morceaux d'aliments en vue de leur digestion intégrale, au lieu de se retrouver à moitié digérés dans le gros intestin. Les aliments non digérés adéquatement qui atteignent le gros intestin subissent une fermentation par les bactéries, causant ainsi des ballonnements, des flatulences et parfois même des maux de ventre. Quand même assez étonnant. De petites portions d'aliments bien mastiqués contribuent aussi à réduire la pression du sphincter de l'œsophage, réduisant du coup les risques de reflux gastrique. Et en finalité, elle dit qu'une bonne mastication augmente aussi la production de salive, assurant ainsi une meilleure hygiène buccale, puisque la salive peut neutraliser certaines bactéries. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pouvez aller voir le blog sur le site Passeport Santé. C'est un papier de Hélène Baribault. On vous revient dans quelques instants. Thank you. Alors, de retour avec Serge, qui poursuit son article, en fait. Hein, c'était beaucoup trop intéressant.
Ben, écoutez, suite aux nombreux appels que j'ai eus, les gens me disent, oui, mais si on ne peut pas prendre de médicaments, c'est quoi le meilleur moyen pour combattre la toux?
Et sans compter les courriels qui entrent.
Ah, les courriels, ça n'arrête pas. Entendez-vous?
Oui, bing, bing.
Alors, écoutez, comme la toux permet à votre organisme d'expulser le mucus qui encombre vos voies respiratoires, il n'est pas toujours avantageux de l'inhiber. Et si vous avez une toux grasse, comme j'ai eu en Chine, je ne vous raconterai pas ma vie ce matin,
non.
Je ne savais pas, j'avais une bronchite, eh bien j'ai fait cela, et cela m'a permis de survivre. J'ai bu beaucoup de liquide, comme de l'eau, de la tisane, j'ai bu de la tisane, et... du bouillon, ça s'avère le meilleur remède pour favoriser l'expectoration.
Ouais.
C'est bon? Et j'ai bu de l'eau avec du gingembre dedans.
Qui est très bon, soit dit en passant.
Le gingembre, pour le foie, c'est excellent.
Exactement.
Pour la fièvre, c'est merveilleux, le gingembre. OK? Alors, une tisane au gingembre, là, allez-y, c'est merveilleux. OK? Maintenant, ça, c'est la toux. Vous avez le nez bouché, hein? Il y a ensuite comment faire baisser la fièvre, soulager le mal de gorge. Lequel vous intéresse, vous?
Ah, allez-y, allez-y.
Soulager le mal de gorge, Roger?
Oui.
Bon, d'accord. L'idéal est de boire beaucoup d'eau, comme vous faites.
Oui.
Et de vous gargariser, mais pas devant le micro, par exemple. Et de vous gargariser avec une solution saline maison.
Ah oui, c'est ça.
Utilisez la même recette que celle indiquée plus haut pour la décongestion nasale.
Ben, ma grand-mère avait la même méthode.
Ouais. Les pastilles, en favorisant la salivation, sont utiles pour hydrater la gorge et soulager l'irritation. Un peu comme une crème hydratante qu'on passe. Daniel Kiroua qui suggère de choisir celles qui contiennent peu d'ingrédients. Idéalement, avec du miel, parce que ça soulage et c'est bon. Vous pourriez aussi opter pour un vaporisateur au lieu des pastilles. L'effet obtenu sera similaire, bien que les pastilles permettent une salivation plus longue. La vitamine C, présente dans plusieurs marques de pastilles, offre-t-elle un avantage? Pas vraiment, non, car elle s'y trouve en quantité trop faible pour avoir un effet contre le rhume. Et même sous forme de supplément quotidien, la vitamine C a peu d'effet sur la prévention du rhume et la diminution des symptômes, souligne Daniel Thirion. Des études ont toutefois démontré que les suppléments peuvent réduire l'incidence du rhume chez certains groupes précis, comme les soldats en poste dans des régions subarctiques, et les athlètes de haut niveau. Bon, alors ça, c'est pas pour nous. Hein. Quant à l'échinacée, couramment utilisée dans les pastilles, hein, la fameuse échinacée, son efficacité en prévention ou pour soulager les symptômes causés par le rhume reste à établir. Et les doses employées sont insuffisantes pour générer un effet thérapeutique. C'est beau? Alors, l'idéal pour soulager un mal de gorge, et je vais en rajouter. Hein? J'ai dû l'apprendre parce que pour parler, c'est nécessaire de ne pas avoir mal à la gorge. Et t'as toujours. Hein? Alors, le citron. Gargarisons-nous avec du citron le soir avant de nous coucher. Et n'enlevez pas tout le citron hein, à la fin du gargarisage. Mm-hmm. Laissez-le un peu mijoter dans le fond de votre gorge. Il va tuer les bactéries. Ah, le citron. Ça a un effet curateur exceptionnel.
Ce qu'on m'en a acheté.
Oui, oui. Et ça ne coûte pas cher. Hein?
Non, effectivement.
Alors, le citron pour soulager le mal de gorge. Maintenant, aimeriez-vous décongestionner un nez bouché?
Oui.
Oui? Bon. Alors, Daniel Kiroua privilégie les solutions salines de type Salinex ou Hydrasens à utiliser au besoin puisqu'elles ne présentent aucun effet secondaire. Okay? Mais vous pouvez faire votre propre mélange en ajoutant une cuillerée à thé de sel. Et puis un quart de cuillerée à thé de bicarbonate de soude à 4 tasses d'eau. C'est bon? Bouilli. Il faut faire bouillir l'eau. Il se conservera au réfrigérateur jusqu'à 7 jours. Et ne cédez pas à la tentation d'ajouter du sel pour augmenter l'efficacité du traitement. Vous risqueriez de vous retrouver avec les muqueuses irritées et douloureuses. prévient le pharmacien. La plupart des autres décongestionnants en vaporisateur contiennent, attachez votre tuque, de l'oxyméthazoline ou de l'axylométhazoline, deux ingrédients qui agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins de la muqueuse du nez, ce qui diminue la congestion et facilite la respiration. Ils sont efficaces, mais ils peuvent entraîner un effet rebond, c'est-à-dire une baisse de sensibilité des cavités nasales qui redeviennent alors congestionnées, explique Daniel Thirion, pharmacien et professeur titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Les décongestionnants comprimés, excusez-moi, comme Sudafed, hein? Sudafed plus, Sinus plus, et plusieurs formules, rhume et sinus, contiennent souvent un mélange d'acétaminophène et d'ibuprofène et de pseudofredine qui causent une constriction des vaisseaux sanguins, des sinus, et ce médicament provoque aussi une certaine excitation et a un effet coupe-faim. Aïe aïe. À noter que les antihistaminiques Benadryl et Claritin, par exemple, sont efficaces contre les allergies, mais inutiles lorsque la congestion est causée par le rhume. Si on les trouve dans plusieurs formules, nuit ou tout en un, c'est qu'ils provoquent de la somnolence et peuvent vous aider à trouver le sommeil, souligne Daniel Thirion. L'humidité fait aussi des merveilles pour décongestionner le nez bouché, souvent à cause du chauffage. Hein?
Oui.
Alors, une douche chaude ou un sauna vous soulagera temporairement. Utilisez cependant les humidificateurs avec prudence en raison des risques de prolifération bactérienne. Privilégiez les appareils à vapeur froide et limitez-en l'usage à quelques heures par jour pour maintenir un taux d'humidité entre 30 et 50. Maintenant, des précautions. Les décongestionnants oraux à base de pseudoéphédrine peuvent avoir un effet stimulant et augmenter le rythme cardiaque autant que la pression artérielle. Ils sont donc déconseillés aux personnes qui souffrent de troubles cardiovasculaires ou d'hypertension, et vous devriez aussi les éviter si vous êtes diabétique ou si vous avez un problème d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Méfiez-vous de l'effet rebond des décongestionnants en vaporisateur et ne les utilisez pas plus de 4 jours consécutifs.
Et voilà.
Alors, donc, simplement, une cuillerée à thé de sel, un peu de bicarbonate de soude, comme dirait César dans le midi de la France, et puis un peu d'eau bouillie, là, mélanger le tout, inhaler ça.
C'est le remède de notre grand-mère.
Et le grand-père aussi.
Oui, le grand-père aussi.
Bah,
oui, mais le grand-père subissait. C'était pas la même chose.
D'accord.
Merci beaucoup, Serge. Merci pour ces précieux conseils. Et il faut retenir qu'il faut être prudent avec les médicaments. Hein?
Oui.
Et que ben ça
oui.
ne guérit pas le rhume ou la grippe.
Non.
Entre autres. Ben, merci tout le monde. Merci, Roger. Merci à toi, Serge. Merci au metteur en onde. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous rappelle que cette émission est en rediffusion tout au long de la journée et que cette émission, on la retrouve tout au long de la semaine. À tous les jours de la semaine. Donc, vous pouvez aller voir les informations sur le site internet du canal mvuesetvoix.com. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.